Studio Tamani, voici les informations en français.
La cour d'assises spéciale continuera de juger l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. L'incompétence de cette juridiction soulevée par les avocats de la défense a été rejetée. La journée internationale des envois de fonds à la famille a été célébrée ce 16 juin à travers le monde. Au Mali, plus de 700 milliards de francs CFA ont été envoyés en 2024 par la diaspora malienne. La Biennale artistique et culturelle de Tombouctou 2025 se prépare activement dans les différentes régions. Certaines troupes locales ont entamé les répétitions. Ces titres vous seront développés par Draman Meiga avec la complicité technique de Gandhi Kanté. Mesdames et messieurs, bonjour. Affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Le procès a repris hier et suit son cours. L'incompétence de la cour d'assises spéciale à juger cette affaire, soulevée par les avocats de la défense, a été rejetée. Ce mardi était à la barre le représentant de la société Guiosarl, cette société avec laquelle l'État malien avait signé un protocole d'accord pour l'achat des équipements militaires. Le montant de cette convention s'élève à plus de 69 milliards de France CFA. Moussa Malé Sissoko a suivi l'audience.
À la barre, Ousmane Bouaré, gérant de la société Gostar Sarl au moment des faits, a affirmé qu'il ignorait le contenu de la convention signée entre sa société et l'État malien. M. Bouaré a également déclaré ne pas être au courant de l'existence de la lettre de garantie autonome fournie par Mme Bouaré Fili Sissoko, alors ministre de l'Économie et des Finances. Une correspondance qui garantissait 100 milliards de francs CFA à la Banque Atlantique. Quant à la question de savoir quel rôle a-t-il joué au cours des événements, le gérant de Gostar Sarl a répondu qu'il recevait les instructions de Amadou Kouma. Il a aussi révélé que ce dernier l'envoyait signer des documents à sa place. Autre point soulevé par le procureur général, c'est l'accès du fonds de garantie de l'État par Gostar Sarl sans l'aval de l'État. Quel effort la société a fourni pour empocher 29 milliards de francs CFA. M. Bouaré est représentant de la société, indique que sa structure avait signé une convention de 39 milliards de francs CFA avec ses fournisseurs français pour la fourniture des blindés, des véhicules de transport des troupes et des ambulances. Il nie la responsabilité de la société dans cette affaire. La cour a révélé des contre-vérités dans les déclarations de Ousmane Bouaré avant de suspendre la séance. Elle a aussi attiré l'attention de l'ex-gérant de Gostar Sarl sur les conséquences du faux témoignage, car cela est passible d'une poursuite judiciaire.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Le tribunal de commerce de Bamako a ordonné une administration provisoire de l'État pendant 6 mois pour diriger les mines d'or de Loulou S.A. et Gounkoto S.A. Cette décision intervenue le lundi dernier fait suite à un conflit opposant l'État malien à la société canadienne Barrick Gold qui détient 80% du complexe minier. Barrick Gold a exprimé son mécontentement et envisage de saisir le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Ousmane Nialibouli.
Soumana Makadji, expert comptable et ancien ministre, a été nommé nouvel administrateur provisoire des mines d'or de Loulou S.A. et de Gounkoto S.A. Les autorités maliennes ont exigé cette mesure afin de relancer les activités d'extraction à l'arrêt depuis janvier dernier sur les sites de Loulou S.A. et de Gounkoto S.A. Cette demande d'administration provisoire a été introduite devant le tribunal de commerce de Bamako le 8 mai 2025. Selon la décision du tribunal, le nouvel administrateur provisoire aura pour mission de rouvrir les mines dans les plus brefs délais. Il lui est également demandé de présenter un rapport d'activité tous les 3 mois, notamment sur le fonctionnement des sites et les difficultés rencontrées. Dans un communiqué publié ce lundi, la société canadienne Barrick Gold a réagi à la décision du tribunal. Elle affirme que ses actions injustifiées ont mené à la suspension temporaire des opérations. Cependant, Barrick Gold dit vouloir trouver une solution constructive et mutuellement acceptable. Bien que l'entreprise ait saisi le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, elle maintient néanmoins sa position. Pour rappel, les services fiscaux maliens ont fermé les bureaux du groupe minier à Bamako en avril dernier pour non-paiement d'impôts. Ces différends entre l'État malien et la société canadienne a débuté fin 2024.
Autre sujet, le rôle crucial des migrants dans le soutien économique de leurs proches restés dans leur pays d'origine a été magnifié lors de la commémoration de la Journée internationale des envois des fonds à la famille. Selon le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, plus de 700 milliards de francs CFA ont été envoyés en 2024 par la diaspora malienne. Ces envois de fonds représentent une source de revenus essentielle pour de nombreux ménages, a indiqué le Haut Conseil des Maliens de France, Mohamed Babakunta.
De Yelimane à Bafoulabé, dans la région de Kaï, des citoyens affirment que ces fonds permettent non seulement de financer leurs dépenses quotidiennes, mais aussi de prendre en charge l'éducation et la santé des membres de leur famille.
Ils participent vivement aux frais de la famille. Il y en a qui font tous les fins d'année, font leurs calculs, ils envoient l'argent pour y payer la nourriture pour toute l'année. L'impôt, c'est eux qui payent.
Nous pouvons dire qu'ils interviennent dans tous les secteurs de développement dans le secteur de Yelimane. L'apport est considérable.
Karim Agalississi est le secrétaire général du Haut Conseil des Maliens de France. Il ajoute que la Journée internationale des envois de fonds à la famille est aussi une occasion pour reconnaître et valoriser les efforts des migrants.
L'année dernière, il y a eu 700 milliards d'envois qui ont touché directement le ménage au Mali. C'est une journée de fierté, de consécration, mais aussi une journée qui témoigne réellement de l'engagement de tous les Maliens de la diaspora vis-à-vis de leur famille.
Cette journée met donc en lumière l'importance des transferts d'argent des migrants pour leurs familles et communautés d'origine au Mali et dans le monde.
Comme annoncé au sommaire, les préparatifs de la Biennale artistique et culturelle de Tombouctou 2025 ont déjà commencé dans les différentes régions. À Dioïla, certaines troupes locales ont entamé les répétitions selon le directeur régional de la culture, Monzon Traoré. Il estime que les documents des groupes thématiques sont déjà distribués aux troupes afin qu'elles puissent mieux préparer la compétition. Il est joint par Oumar Ouigalo.
Phase locale d'abord, après avoir distribué les documents qui ont été élaborés par l'État au niveau des aigles avec les préfets, après ça, on a créé une commission régionale qui a été mise en place. Dans la phase locale, nous avons commencé. Nous avons commencé les préparatifs, donc les travaux sont déjà commencés au niveau local avec les collectivités et les juges administratifs politiques des cercles. Il y a des cercles qui avaient déjà pris les précautions par rapport à ça. Il y a d'autres qui ont pris le devant d'organisation. À leur niveau, ils ont commencé à faire des travaux. Les travaux pratiquement commencent à avancer.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Au Mali, les cheveux des nouveau-nés sont au cœur des diverses croyances. La tradition les conserve pour des raisons mystiques, tandis que la religion préconise de les jeter après le rasage lors du baptême. Pour mieux comprendre ce sujet, notre reporter Kouma Finkeita a rencontré des spécialistes.
À Bamako, les mamans ont des opinions variées sur le sujet. Certaines femmes disent comprendre l'origine spirituelle de cette croyance, tandis que d'autres n'en ont aucune idée.
Après le baptême de mon bébé, j'ai confié la gestion de ses cheveux à mon mari. Dans mon village, ce sont les femmes âgées qui s'en occupent. J'ai remarqué que d'autres conservent les cheveux du nouveau-né. J'ai fait pareil sans vraiment comprendre pourquoi.
Les premiers cheveux représentent les premiers sacrifices de l'enfant. Si on n'a pas les moyens de faire ce sacrifice, il est conseillé de bien les garder.
Yacouba Dougouni, sociologue, explique: les premiers cheveux d'un enfant sont sacrés. Ils sont souvent ciblés pour nuire à l'enfant. Enfin, ce qui explique le mystère qui les entoure. Les sociologues ajoutent que l'avenir de l'enfant est étroitement lié à ses cheveux. C'est pour cette raison que les anciens insistent pour qu'il soit protégé des regards malveillants.
Vous savez, les cheveux, c'est des formes, c'est des lignes qui apparaissent au niveau même des cheveux de l'enfant. Quand les lignes sont d'une trop forte, on peut interpréter facilement l'avenir de l'enfant. La tête est rasée en fonction de ces lignes. Voilà, destinée à être riche et tout ça. Donc, on fait des interprétations par rapport à ça.
Dans la religion musulmane, la première cheveux d'un enfant n'ont pas de caractère sacré. Selon Sadibou Koulibaly, imam Akaï, on les pèse généralement pour faire des sacrifices en faveur du bien-être de l'enfant. Ensuite, on s'en débrasse.
L'islam recommande de raser la tête des nouveau-nés, garçons et filles. Les cheveux sont pesés et leur équivalent en or est donné à nous mondes, selon les moyens des parents.
Chez les chrétiens protestants, les cheveux d'un bébé n'ont pas de signification particulière. Conserver ses cheveux pour d'autres usages va à l'encontre des principes de l'Église. C'est ce qu'affirme Polycarpe Diarra, pasteur à Tominia.
Les cheveux, c'est une partie de l'enfant que Dieu a donné. Donc, on ne se sert pas, en tout cas, d'une partie de ces dons de Dieu qui sont les cheveux pour en faire d'autres usages.
Malgré les avis divergents de la religion et des coutumes sur cette question, de nombreux citoyens restent fidèles à cette pratique. Ils la considèrent comme une part essentielle de leur identité culturelle.
C'est ce dossier qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais restez à l'écoute car juste après le magazine Toutes les femmes du Mali, la version Bamanankan avec Juliette Koulibaly. Les commissions foncières COFO sont chargées de gérer les questions foncières. Elles font également la conciliation lorsqu'il y a des litiges fonciers. Ces commissions existent dans toutes les communes. Selon des femmes, la mise en place de ces COFO a facilité l'accès aux femmes aux terres. Ce magazine Toutes les femmes d'aujourd'hui s'intéresse à l'implication des femmes dans ces COFO. Une réalisation de Lala Aïcha Wallet Infa avec l'appui de nos correspondants.
La question foncière a longtemps été la chasse gardée des hommes. Les femmes n'y étaient pas associées. Mais de nos jours, cette tendance est en train d'être inversée dans beaucoup de régions. La gente féminine est représentée dans les différentes commissions foncières mises en place dans les communes. Et elles font plus que la figuration, comme en témoigne Mme Jassana Aïchédiko et coordinatrice JAR au niveau du comité régional des concertations des ruraux de Sikasso.
Il y avait un site précisément Nyanzédou, où il y avait des questions, problèmes fonciers, avec l'implication des collectivités et puis l'administration, on a pu résoudre.
L'apport des femmes dans ces commissions foncières n'est pas à discuter, selon Moumine Meïga, membre d'INCOFO à Diri. En plus de s'impliquer dans la résolution des problèmes fonciers, ces femmes défendent l'intérêt des femmes paysannes dans ces COFO.
Les femmes jouent un grand rôle dans cette commission. Elles acceptent d'aborder les problèmes des terres et défendent même l'intérêt des femmes à propos des terres. D'ailleurs, ça abouti à quelque chose, parce qu'actuellement, elles sont parvenues à avoir un périmètre irrigué au niveau de la coopérative agricole de dire qu'elles exploitent depuis combien d'années. Ça, c'est une chose qui est à féliciter. C'est aussi à l'actif des femmes.
Ces propos sont soutenus par Antoine Traoré, membre de la commission foncière de Sigou. Selon lui, cette présence des femmes dans les commissions foncières permet aux femmes de pouvoir accéder aux terres dans l'office du Niger.
Grâce à leur engagement au sein de cette commission, c'est que beaucoup de problèmes ont été résolus en faveur des différentes associations et coordinations féminines. Même au sein de l'Office du Niger, on a songé aux femmes, aux jeunes, pour la répartition des terres afin de leur permettre de bien travailler.
L'accès des femmes aux terres, notamment 15% de la loi leur accorde, est devenu plus facile depuis l'avènement des commissions foncières. Ce n'est pas la coopérative de Gorko Hondo à Diré qui dira le contraire. Cette organisation féminine a pu avoir des parcelles grâce à l'implication des femmes dans ces commissions foncières. Madame Cissé Nana Hamadjallou.
Côté de la coopérative agricole de Ngorfou Hondou, ils ont eu à donner des parcelles aux femmes. Nous sommes plus d'une vingtaine. C'est notre troisième année cette année.
À Koutchala, grâce à la commission foncière, beaucoup de défis liés aux litiges fonciers ont trouvé une issue favorable. Et les femmes ne se sentent pas restées en marge dans la gestion de ces problèmes. Selon Nire Djenoboudaou, représentante des femmes à la COFO de Koutchala.
Les neuf villages de la commune urbaine de Koutchala a donné 2 hectares de terre aux femmes de chaque village. Nous sommes également en entretien avec la COFO pour sécuriser ces terres. Certes, il y a des problèmes fonciers, mais le fonds d'appui à l'agriculture a fait de son mieux pour les femmes.
Au Mali, l'agriculture et le maraîchage restent les principales activités menées par de nombreuses femmes. Mais dans beaucoup de localités, l'accès aux terres constitue un obstacle pour ces femmes. Si les commissions foncières ont considérablement réduit cette difficulté dans certains endroits, elles demeurent dans d'autres.